L'Église protestante d'Île de France est organisée en région et nous faisons partie ici à Montpellier de la région Cévennes, Languedoc-Roussillon. Un journal protestant régional y est rattaché et Nicolas Boutier en est le rédacteur en chef. Bonjour Nicolas.
Bonjour Guylaine.
Merci d'être fidèle à ce rendez-vous mensuel.
J'essaye.
Vous y arrivez. Alors, pour ce mois de juin, le dossier sur les jeunes du CEP, c'est les jeunes dans l'Église. Voilà, c'est un dossier sur les jeunes dans l'Église. Et on pourrait dire aussi que toute cette première partie est vraiment destinée aux jeunes. Ou parle des jeunes. Oui, comment diriez-vous ?
Elle parle des jeunes.
C'est pas destiné aux jeunes. Ouais.
Alors, je ne suis plus jeune, donc c'est vrai que ce sont des grands adultes qui ont fait le dossier. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas laissé parler les jeunes, d'ailleurs, dans notre dossier.
Ah.
Mais on parle des jeunes aux membres de l'Église.
Oui.
Parce que souvent, ce qu'on entend quand on va de paroisse en paroisse, c'est « Où sont les jeunes ? Ils ne sont plus là, on ne les voit plus, ils ne font plus rien, ils ne s'engagent pas. » Et finalement, si on cherche un peu autour de l'Église, même très proche, ils sont là. Mais le culte le dimanche matin, c'est trop tôt, c'est pas le moment. Ils préfèrent se retrouver pour des grands événements. Donc dès qu'il y a des rassemblements de 2-3 jours, une semaine, on les retrouve, ils sont là et ils disent leur foi souvent.
Finalement, ils sont pas avec les membres, les membres traditionnels, oui, c'est ça, ils sont pas là, mais ils sont à côté.
Ils sont à côté. Alors après, on peut les retrouver, c'est-à-dire que s'il y a un très gros événement sur une paroisse, on peut arriver à les stimuler et ils peuvent rejoindre les bancs du temple, mais pas toujours. Il y a peut-être quelque chose aussi de ce qu'on dit, la façon dont on leur parle, ce qu'ils peuvent entendre, et ils sont plus dans des choses où ils se rassemblent entre eux et ils vivent quelque chose entre eux.
Alors, est-ce que ces jeunes sont des jeunes issus de familles déjà protestantes, déjà engagées, ou finalement leurs origines sont très diverses ?
Un peu des deux, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on retrouve en effet des enfants de familles protestantes, mais ils ramènent leurs copains en fait. Et donc, au bout d'un moment, il y a ceux qui vont juste être là pour un rassemblement chrétien, et puis il y a ceux qui vont se dire, ben, finalement, ça me parle, ça me dit quelque chose, donc je vais m'engager et je vais aller un peu plus loin.
Alors Nicolas, c'est vous qui avez interviewé Christine Milke, qui est secrétaire nationale à l'animation des réseaux jeunesse pour l'Église protestante unie. Alors je la cite non seulement parce que c'est vous qui l'avez interviewé, mais aussi parce que nous la connaissons à Montpellier. Elle était pasteur sur le secteur de Jacou.
Exactement.
Et donc c'était une figure que les gens ici appréciaient, reconnaissaient. Et il y avait déjà en elle ce dynamisme à l'intention des plus jeunes.
Oui, toujours. C'est vrai que dans tout son ministère, elle a toujours été proche des jeunes. Elle a toujours beaucoup organisé de groupes. Je pense que dans la région, elle n'a pas vraiment eu de poste jeunesse. Mais bon, elle a toujours travaillé pour eux, en particulier sur la paroisse de Montpellier les derniers temps. Et c'est vrai que son nouveau poste lui correspond bien. Alors, en aparté de notre interview, en discutant, ça fait un an qu'elle y est, c'est un poste énorme, parce qu'il faut arriver à faire le bilan de tout ce qui se fait au niveau jeunesse de notre Église. Et la multitude de notre Église, au niveau de ses pratiques, se retrouve chez les jeunes. Donc il y a des groupes de toutes sortes, divers et variés, un peu partout en France. Et donc, il faut arriver à donner une certaine... ça va donner une certaine dynamique, parce que chaque groupe est indépendant, mais c'est arriver à voir ce qui se fait et qu'est-ce qu'on peut se faire de toute cette énergie qui sort de ces groupes.
Alors, de mémoire, le plus grand événement qu'on retient, c'est bien le Grand Kiff.
C'est le principal, qui est organisé maintenant depuis 4 ou 5 ans, qui va avoir lieu en 2020. C'est pour ça un peu qu'on a fait ce dossier jeunesse, d'ailleurs en préparation de l'année à venir, parce qu'on va beaucoup entendre parler du Grand Kiff. On ne sait pas encore où va se tenir le...
Ah oui.
Le Grand Kiff.
Ah, on n'a pas donné le lieu.
On connaît le thème.
La liberté.
Mais c'est encore secret.
Le lieu est secret.
Parce qu'il y a encore des conventions à signer.
C'est ça, d'accord.
Il y a des bruits qui courent.
Vous êtes dans les secrets des dieux.
Il y a des bruits qui courent.
Oui, d'accord.
Mais ce n'est qu'un bruit qui court, on ne peut pas en faire état.
Bon, vous nous direz le mois prochain.
Mais voilà, le Grand Kiff, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans, qui réunit des jeunes de la France entière. Voilà, qui vivent pendant, alors pour certains, 3 jours de camp, d'autres un peu plus, parce qu'étant plus grands, ils viennent à ce qu'on appelle l'alterkif, une semaine avant, pour préparer l'installation du camp et l'accueil des autres jeunes. Et c'est donc 3 jours de jeux, louanges, prières, chants, cultes.
Et, de rigolade aussi.
Et de rigolade, non, c'est ça, enfin, c'est de jeux entre... Enfin, oui, parce qu'il y a le jeu... organisé, et
c'est
puis
ça.
Les temps libres
c'est
et
ça.
Les rencontres.
Le off.
Voilà le off.
Qui doit être aussi intéressant que le in.
Comme à Avignon.
C'est ça.
Et voilà, et des jeunes qui se retrouvent de la France entière, avec sûrement des problématiques différentes, mais qui se retrouvent autour de leur foi. Et puis, comme on le disait, certains ne savent pas s'ils peuvent mettre des mots dessus, s'ils peuvent en parler, comment en parler. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus à l'aise. Et donc tout ça fait que... Ce grand kiff fonctionne et que les jeunes viennent toujours avec autant de plaisir.
Donc voilà, ça continue. Alors Nicolas, vous aussi, dans votre édito, vous témoignez de votre engagement auprès des jeunes du Consistoire, du Piémont, des Cévennes. Et un édito dont j'aime beaucoup la finale, vous terminez par « Laissons-nous conduire par eux ». Oui, ce n'est pas que les anciens qui savent, il faut aussi entendre ce qu'ils ont à nous dire.
En fait, c'est ça. Je ne sais pas si c'est par rapport au dossier, mais le fait d'en parler là maintenant, mais je me dis souvent, on est toujours en train de se plaindre. Hein, où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Où sont les jeunes? Finalement, ils y sont. Ils reviennent. Ils frôlent nos assemblées. Mais leur laisse-t-on la place, en fait, de prendre la parole et de dire ce qu'ils veulent vraiment? Et alors, c'est pas toujours facile parce qu'eux-mêmes ne le savent pas forcément. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de temps en temps de dire, dans un endroit, de quoi vous avez envie? Et j'y ai pensé aussi parce qu'un pasteur m'a dit, quand on fait une salle pour des jeunes, il faut que cette salle elle soit aux jeunes et pas à l'église.
Oui.
Parce que les jeunes, ils fonctionnent comme ils veulent. C'est-à-dire que s'ils laissent un bout de pizza au fond du frigidaire, il ne faut pas qu'il y ait 45 dames qui arrivent après en leur disant « c'est pas bien, vous avez oublié le bout de pizza ». C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Au bout d'un moment, ils finiront par nettoyer quand ils le trouveront moisi au fond du frigidaire, mais il faut leur laisser cette liberté-là. C'est-à-dire on a un lieu pour nous, offert par l'Église, dans lequel on peut se retrouver.
C'est ça, en autonomie ?
En autonomie. Et c'est un peu l'expérience que j'ai eue dans le mini-camp. C'est-à-dire qu'il y a différents âges. Et quand vous prenez les plus grands qui avaient 13-14 ans, qui n'est pas non plus... mais que vous leur donnez un peu d'autonomie ou d'autorité... Enfin, pas d'autorité, mais que vous reconnaissez leur place, en leur disant, écoute, là, j'ai besoin de toi pour m'aider pour faire ça. Et bien, vous avez un camp qui se passe super bien. Et après, ils ont leur temps de pause, bien sûr, et de jeux et de bêtises. Mais vous savez que vous pouvez aussi compter sur eux. Et finalement, ils ont confiance en vous parce que vous leur faites confiance. Donc voilà, je pense qu'il faut leur laisser la place.
Alors, nous l'avons dit, ce dossier est, a comme contenu les jeunes. Vous me disiez que ce n'était pas forcément destiné aux jeunes. Mais quand même, est-ce que lorsqu'on parle de soi, on aime bien lire ce qu'on en dit. Est-ce que vous avez prévu une diffusion particulière pour ce numéro du CEP du mois de juin, quand les jeunes kiffent l'église ?
Et même pas particulièrement, en fait. Donc, ce sont les abonnés qui vont le recevoir comme d'habitude, mais on a... Alors, c'est vrai qu'au niveau de la région CLR, on n'a pas vraiment un gros centre jeunesse, en fait, ou un gros mouvement jeunesse. Donc, on n'a pas... J'y ai pas pensé du tout, hein. D'ailleurs, c'est même avec votre retour que... J'ai pas vraiment pensé à le diffuser plus dans les paroisses. Mais maintenant, ça fait un petit moment qu'il tourne.
Oui.
Et j'ai pas eu non plus de nouvelles des paroisses en disant, est-ce qu'on peut en avoir quelques numéros supplémentaires pour pouvoir le diffuser auprès de nos jeunes.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pour ça, je sais pas si... voilà, est-ce que c'est pour les jeunes? J'en suis pas certain. On a fait pour notre lectorat habituel, pour leur dire, attention,
c'est
les
ça.
Jeunes sont là, ne les oublions pas. Alors, vous les voyez peut-être pas, mais ils y sont quand même.
On se retrouve tout de suite après notre courte pause musicale pour continuer à dérouler ce numéro du mois de juin du CEP.
Vous écoutez le CEP sur le réseau FM Plus 91 FM à Montpellier, 103 points à Nîmes. Une émission animée par Guylaine Dubois et Nicolas Boutier.
Sur FM Plus 91 FM à Montpellier, nous sommes en compagnie de Nicolas Boutier, le rédacteur en chef du journal protestant régional, le CEP. Alors nous avons déroulé le dossier, le dossier « Quand les jeunes kiffent l'église », voilà, ne les oublions pas, nos jeunes, ils sont là. peut-être pas forcément en même temps que nous dans l'église, mais voilà.
Juste à côté.
Juste
mais
à
ils
côté.
Y sont en fait, ils y sont.
Juste après, juste avant, voilà, et juste à côté, c'est ça.
Peut-être
à leur
pas
place.
Après, juste avant peut-être,
juste
justement.
Avant. Ouais, c'est ça.
Quoique, on va rassurer aussi les personnes âgées, ils sont juste après nous, c'est-à-dire que je reste toujours persuadé qu'arrivé à la retraite, on revient au temple et on s'installe sur le banc.
Ouais.
Mais voilà, il faut attendre la retraite.
Alors, on a parlé de leur engagement dans l'Église, mais vous avez aussi un article, Nicolas Boutier, dans les pages nationales, hein, sur des jeunes qui s'engagent aussi dans des sujets, dans des problématiques qui concernent tout le monde, au-delà des engagés dans l'Église.
Oui. En fait, c'est dans un lycée de la région de Sommières, celui qui est l'initiateur est un jeune catéchumène de la paroisse de Sommières. Et c'est pour lutter contre le harcèlement à l'école. Et donc, il a monté un petit groupe avec des copains pour essayer de détecter ce harcèlement scolaire de d'autres élèves. Hein, voilà. Mmh. Et la direction a trouvé l'initiative intéressante. Il est venu poser des cadres, en fait, pour éviter, je pense, les débordements, peut-être de la violence ou, voilà, ou une espèce de prise de pouvoir. Donc, tout cela a été encadré. Ça a été tellement bien mené que l'expérience a été amenée dans d'autres lycées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes sont intervenus à l'ONU, à Genève, pour présenter leur projet et leur lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, c'est comme quoi les jeunes de notre Église, même s'ils ne sont pas au temple, s'engagent. Alors, est-ce que c'est leur éducation, est-ce qu'il leur a été enseigné, leur foi peut-être, qui les porte sur ça? Sûrement, on peut l'espérer. Puis aussi, c'est un acte citoyen d'engagement et de justice, en fait, qui est plutôt intéressant.
Donc, de Sommières à Genève.
De Sommières à Genève. C'est amusant, parce qu'il y en a qui l'ont fait il y a quelques siècles en arrière, mais pas pour
c'est
les mêmes
ça.
Raisons.
Et voilà, j'y pensais, justement. Alors, donc voilà, vraiment, on a déroulé le dossier, mais on y retrouve dans ce journal des chroniques, enfin des rubriques, voilà, qui reviennent chaque mois. Et notamment, peut-être on pourrait faire un petit focus sur le portrait de Marthe Rioux.
Oui, alors dans les pages régionales du journal, c'est un portrait qui a été fait par Martine Fouchier, qui est aumônier protestante à la maison de santé protestante de Nîmes. Marthe Rioux fête ses 100 ans au mois d'août. Et elle a été... alors, elle n'est pas reconnue pasteur, mais c'est comme si elle était pasteur, en fait. Elle a fait toutes ses études. Alors, vous imaginez, elle a 100 ans en 2018, donc elle est née en 1918. Elle est rentrée à la faculté de théologie avant la guerre. Donc, c'est quand même pas anodin. À cette époque-là, il y avait très peu de femmes. D'ailleurs, elle le raconte dans son récit, hein, l'accueil qui est fait. Ce sont les professeurs, en fait, qui ont défendu la place des femmes. Parfois, certains étudiants avaient des propos machistes, reconnaissant que c'était sympa d'avoir des jolies dames ou de jolies étudiantes à côté d'eux, mais que bon, après, de là à ce que les prendre au sérieux, c'est une autre question. Et donc, ces femmes sont quand même battues. Et pendant la guerre, elle est partie finir ses études en Suisse, où elle a rencontré son mari. Et quand ils sont rentrés en France, quand lui est rentré en France, ils se sont mariés. Et lui a été pasteur et elle n'est pas allée jusqu'au bout. En fait, elle s'est occupée des enfants, mais en étant continuellement au service de l'Église. C'est-à-dire que quand il y avait besoin, elle prêchait. Elle a fait tout son rôle de pasteur sans en avoir la reconnaissance. Donc c'est intéressant d'avoir ce portrait et puis de voir ces histoires de femmes. Parce que finalement, on entend beaucoup parler des pasteurs hommes, mais l'histoire de femmes comme ça, qui se sont battues un peu avant les autres et qui font qu'aujourd'hui, il y a aussi des femmes pasteurs dans notre Église.
Absolument. Donc Marthe Rioux, c'est le portrait d'une centenaire et c'est le dernier article que vous nous proposez sur cette dame.
C'est ça.
Le
deuxième et dernier article.
Alors, j'avais aussi repéré, mais vous allez peut-être aussi en proposer d'autres pages de ce numéro. La fête des engagés, vous y étiez le 11 mai à Alès, Nicolas?
Oui, j'y étais. Et c'est intéressant.
Vous êtes parce à beaucoup d'endroits.
Je n'ai pas encore le don d'ubiquité, mais ça pourrait être pratique. Et donc, le thème de la journée des engagés. Alors, le principe de la fête des engagés, c'est de réunir tous ceux qui sont engagés dans l'église, qui finalement sont au service de cette église, font beaucoup de choses, mais qu'on ne pense pas peut-être à remercier ou, je sais pas, ou à former. Et donc, là, la région s'est dit on va réunir tous ces gens, tous les ans. Donc c'est la quatrième année, je crois, dans différents lieux de la région. Et voilà, les engagés viennent et puis il y a une journée de formation, de réflexion et puis de rencontre. Parce que je pense que c'est ça aussi, c'est de se dire, ben, j'ai la même problématique que toi dans ma paroisse, mais on a trouvé ça comme solution, qu'est-ce que t'en dis, ça pourrait pas t'aider. Enfin voilà, ça reste aussi très enrichissant. Et le thème de cette année, c'était l'accueil dans tout ça. C'est amusant parce que on parle pas à la jeunesse, mais en même temps, c'est aussi ça.
Comment
et l'accueil dans tout ça. Comment accueillir
jeunes.
Comment faire venir les gens. Et ce qui est ressorti de cette journée, c'est si on peut pas s'accueillir soi-même, ça devient déjà difficile. Si on peut pas accueillir celui qu'on connaît par cœur, avec qui on a grandi, ça pose un deuxième problème. Alors dans tout ça, comment accueillir celui qu'on connaît pas. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'au fil de la journée, on s'est rendu compte que si on pensait à l'autre, en allant au plus loin, qu'on ne voit peut-être pas, mais si on pensait à l'accueillir, eh bien déjà, on accueille tous ceux que l'on voit tous les dimanches au culte, par exemple, ou dans les réunions de paroisse.
Quand vous dites l'autre, ça veut dire celui étranger, qu'on ne connaît pas, qui est complètement très éloigné de nous.
Voilà, qui est éloigné de nous. Mais ouais. ça peut être... parce que là, ça peut être des gens qui nous découvrent et puis qui rentrent pour la première fois. Ça peut être des gens qui ne peuvent plus venir parce que, je ne sais pas moi, ils n'entendent pas, ils ne se déplacent plus, ils ne peuvent plus marcher, ils sont seuls, puis se sentent un peu délaissés, abandonnés, donc ils ne viennent plus. Ça peut être des parents avec des enfants qui se disent « mais oh là là, il faut que je vienne avec mes enfants, ça va être un peu compliqué ». Mais si on pensait à ces gens-là, en fait... en préparant tout, c'est-à-dire si on a une bonne sonorisation, si on a ce qu'il faut pour qu'une personne à mobilité réduite puisse rentrer, si on sait qu'il y a déjà un coin enfant pour accueillir, et bien déjà on participe à l'accueil de ceux qui sont présents. Parce que franchement, pour ceux qui entendent mal, ils y sont aussi quand même le dimanche. Donc si on pense à équiper en bonne sonorisation un lieu, déjà, voilà, on s'accueille l'un l'autre avant d'accueillir les autres.
Penser en grand.
Et il faut penser en grand.
Ouais.
Et il ne faut pas se dire... ils sont pas là. Parce qu'ils ne viennent peut-être pas. Mais si on organise ça, peut-être qu'ils viendront.
Donc l'accueil, c'était le thème de la journée de la fête des engagés du 11 mai. Et voilà, on aura encore certainement une prochaine journée en 2020.
Exactement. La date a peut-être été fixée dans ces périodes, voilà, au mois de mai.
Bon, on en reparlera.
On l'annoncera.
Nous sommes amenés à nous retrouver. Autre chose peut-être qui m'aurait échappé, Nicolas, dans ce numéro du mois de juin 2019 du CEP.
Il y a plein de choses, ouais. Mais...
ça oui.
Il faut le lire.
On ne peut pas tout dire en 20 minutes, hein. Il faut le lire. Appelez pour l'avoir.
Oui, 06 72 77 28 85.
Voilà.
Vous m'aurez en direct au téléphone.
C'est ça.
Et je vous dirai comment faire pour vous abonner. Ou sinon, vous pouvez. Alors, si vous êtes très moderne, vous pouvez aller sur l'adresse du site lecep en un seul mot, .presse-régionale-protestante en un seul mot, .info. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous abonner, soit uniquement à la version numérique, soit à la version papier numérique.
Bien. Alors, vous vouliez quand même faire un petit éclairage sur quelques articles.
Une page dont on ne parle pas souvent, ça s'appelle « Question d'actualité ».
Oui.
Et cette page « Question d'actualité » est une page dans laquelle, j'allais dire, le journal s'engage. Alors, c'est un article qui tourne entre tous les journaux de la presse régionale protestante, au niveau national. Mais voilà, il y a des articles, on réagit à un fait... dont on entend, enfin, social, politique, économique. Et là, l'article de ce mois-ci, c'est sur la mine d'or en Guyane. Alors, c'est assez intéressant parce que quand on a pensé à faire cet article, le projet était bien enclenché. La mine devait se faire. Donc, c'était 800 hectares de mine à ciel ouvert avec tout ce que ça importe en pollution, produits chimiques, déforestation. Sachant que pour extraire l'or, on utilise du cyanure. Et en fait, quand on lit cet article, voilà, on se rend compte que ben, à force d'en parler, de manifester, ben, le projet a priori est arrêté. Officiellement, le président de la République a dit on arrête tout. Et il y a un travail qui va être fait sur le code minier, en particulier pour interdire les produits chimiques violents, nocifs et dangereux dans l'extraction des minerais. Donc comme quoi parfois voilà, une énormité, quand tout le monde se met ensemble, eh bien, on peut faire...
Quand les enjeux sont à ce point...
Voilà, on peut terrible. Faire évoluer les choses.
Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment voilà, un article qui dit votre positionnement.
Exactement.
Par rapport à des choix à politiques, des gouvernementaux.
Exactement. Et tous les mois, cette page tourne et c'est toujours très intéressant d'aller y jeter un coup d'œil.
Bien. Autre chose, Nicolas, ou...
On peut parler, si, alors juste comme ça, il y a une. Vous savez qu'à la fin du journal, il y a toujours une prière.
Oui.
Et cette prière ne tombe pas là complètement par hasard.
Jamais de hasard.
Jamais de hasard.
On a la belle photo de l'Institut protestant
et
de
oui,
théologie.
Parce
que,
en fait, elle va avec une page dans le journal qui s'appelle Lieu de paix. Et le lieu de paix de ce mois-ci est sur a été écrit par un étudiant, on va dire un jeune étudiant.
C'est ça.
Mais plus tout à fait si jeune, à la faculté de théologie de Montpellier, protestante de Montpellier. Et donc voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil, pour dire qu'il y a un témoignage sur ce qui se passe à l'IPT qui vient de fêter ses 100 ans.
Voilà. Et l'étudiant qui n'a pas 100 ans, un petit coucou à lui, François Guy Diamant Berger.
Voilà, membre du comité de rédaction du journal.
En plus, et voilà, quel homme actif. Merci Nicolas Boutier, merci pour ce tour d'horizon du CEP du mois de juin 2019 avec le dossier « Quand les jeunes kiffent l'Église ». Et on se retrouve encore une fois avant l'été.
Oui, pour parler du numéro d'été,
et bien
juillet-août.
Et bien
on sera en vacances jusqu'en septembre après.
Au revoir.
Au revoir Guylaine.